Voici le journal d'Anne-Laure Chouin. Bonjour Anne-Laure.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Le temps des hommages et de l'émotion hier dans plusieurs grandes villes de France après, vous venez d'en parler, l'assassinat de Samuel Paty, ce professeur d'histoire géo décapité par un terroriste. Vendredi soir dans les Yvelines, reportage dans le rassemblement à sa mémoire qui a eu lieu place de la République à Paris.
Le gouvernement réuni en conseil de défense s'apprête à lancer un plan d'action pour tenter notamment d'enrayer les discours de haine et de violence via les réseaux sociaux. Détail dans ce journal avec Anne Fauquemberg.
À l'étranger, retour sur le rebond de croissance de la Chine qui se remet à consommer. Puis nous irons à Chypre Nord où un pro-turc vient d'être élu président dans cette partie de l'île contrôlée par Ankara. Après ce journal, dans la question du jour, Guillaume.
Eh bien, gestion de la crise sanitaire, à quoi peuvent mener les perquisitions chez des ministres? Je poserai la question à Anne Jacquemet-Gauchet, elle est professeure de droit public à l'université de Clermont-Auvergne.
Elle n'a pas faibli, l'émotion provoquée par l'assassinat vendredi soir dans les Yvelines de Samuel Paty, professeur d'histoire-géographie, tué par un russe tchétchène de 18 ans, tué pour avoir montré à sa classe de 4e les caricatures de Mahomet dans le cadre d'un cours sur la liberté d'expression. Une émotion qui a rassemblé des dizaines de milliers de personnes dans les rues de plusieurs villes de France. À Toulouse, Lille, Lyon ou Marseille, ils sont descendus sur les places avec des fleurs et des bougies pour lui rendre hommage, à l'image des rassemblements qui avaient eu lieu après la tuerie à Charlie Hebdo en janvier 2015. Hommage à cet enseignant, mais aussi à la liberté de critiquer et de débattre, une initiative émanant d'associations antiracistes et de syndicats de l'enseignement notamment. À Paris, le reportage Place de la République d'Adrien Palluet.
Sur l'estrade montée Place de la République, les discours d'associations comme SOS Racisme ou de syndicats de l'enseignement se succèdent.
En démocratie, ce sont les citoyens qui collectivement décident des lois, décident des normes, et décide de la façon dont ils veulent rentrer en relation.
Salué par des applaudissements et une Marseillaise. Thomas Lamar écoute depuis le centre de la place. Ému, ce technicien de laboratoire porte un écriteau noir dans la main et sur son masque.
Ça dit que quand on n'aime pas un dessin, on ne tue pas les gens, on en fait un plus joli. Ce serait dit par une petite fille, Léa, de 6 ans, et je pense que ça soit vrai ou pas, en tout cas la citation me parle beaucoup. Et j'ai rajouté en dessous à la mémoire de Samuel Paty, à sa famille, à l'enseignement sans autocensure et à la liberté d'expression, à la laïcité.
Un peu plus loin, Olivier Chaibi tient lui aussi une pancarte qui rend hommage à l'école publique, école publique dont il fait partie puisqu'il est professeur d'histoire-géographie. Il refuse de baisser les bras.
J'ai déjà eu des débats avec les élèves, il faut en discuter, il faut en débattre. On sait qu'il y a régulièrement des pressions de gens qui veulent empêcher les travaux sur l'égalité entre les filles et les garçons, tous les travaux de lutte contre les discriminations. Ça vient de tous les bords de la société et on ne doit pas renoncer, je ne renoncerai pas et je continuerai à travailler tous les discours, toutes les représentations en classe avec mes élèves.
Après le recueillement solennel, le gouvernement a promis de nouvelles mesures pour lutter contre le terrorisme à l'issue d'un conseil de défense qui s'est tenu hier soir à l'Élysée.
Et sur lequel nous allons revenir. Mais concernant l'enquête sur cet attentat, d'abord, elle se poursuit avec une 11e personne issue de l'entourage de l'assassin présumé placé hier en garde à vue, le père d'une élève de la victime et un militant islamiste connu de la police ont eux aussi été arrêtés. Les deux hommes avaient dénoncé l'initiative du professeur et appelé à son renvoi du collège. Les enquêteurs essayent de savoir s'il y a eu des liens entre le tueur et ces deux hommes. Concernant la réponse politique à cet attentat, le chef de l'État, comme d'ailleurs l'ensemble de la classe politique, ont envoyé des messages de détermination et des appels à l'unité. Le ministère de l'Intérieur et la plateforme Pharos, chargée de signaler les contenus illicites sur Internet, ont identifié 80 messages qui soutenaient l'action de l'agresseur de Samuel Paty depuis vendredi. Information donnée à l'issue donc de ce conseil de défense qui s'est tenu hier à l'Élysée, en présence de plusieurs ministres, dont celui de l'Éducation et du procureur antiterroriste Jean-François Richard. Bonjour Anne Fauquemberg.
Bonjour.
Conseil de défense chargé d'initier la mise en place d'un plan d'action à court et moyen terme.
Oui, concernant les établissements scolaires, tout d'abord, ces 15 jours de vacances vont permettre aux autorités de définir des mesures pour sécuriser écoles, collèges et lycées. Le chef de l'État qui s'est également montré vigilant hier soir sur la bonne remontée des informations concernant les incidents en milieu scolaire. Le Conseil de défense a aussi promis des actions concrètes ces prochains jours contre les structures proches des milieux radicalisés. Une liste d'associations situation semble être établie. Elles vont faire l'objet de contrôles et de mesures appropriées. Puis, à partir de début décembre, le cadre juridique sera amené à évoluer avec le projet de loi contre les séparatismes, projet de loi qui devrait étendre les motifs de dissolution d'association et qui doit être encore enrichi à l'initiative de 3 ministres. Enfin, un gros volet va concerner les réseaux sociaux. Depuis vendredi, vous l'avez dit, la plateforme de signalement Pharos a identifié 80 messages qui soutiennent l'action du terroriste. Selon l'Elysée, ces messages donneront lieu à des procédures diligentées par la police ou la gendarmerie, comme des convocations ou des perquisitions à domicile. La ministre de la Citoyenneté, Marlène Schiappa, sera d'ailleurs dès ce matin à Nanterre, au siège de la plateforme, sous l'autorité de la sous-direction de lutte contre la cybercriminalité de la police judiciaire. Et puis enfin, il s'agira de lutter contre la propagande islamiste en ligne. Des discours officiels d'Emmanuel Macron ont été dévoyés récemment, comme celui des Mureaux début octobre sur le séparatisme, discours qui avait été présenté comme une croisade anti-musulman.
Merci beaucoup Anne Fauquemberg, et nous reviendrons sur ces actions à venir plus largement dans le journal de 8h, où l'on reparle d'encadrement des réseaux sociaux, sans cesse évoqués, rarement efficaces, avec cette enquête de plusieurs médias européens, dont la cellule investigation de Radio France. Enquête qui révèle que les algorithmes de Facebook, en particulier ceux qui opèrent du ciblage publicitaire, reposent sur des stéréotypes sexistes, notamment concernant les offres d'emploi. Un ciblage selon le sexe qui, en France, pourrait être constitutif de faits de discrimination. Les précisions d'Abdella Khalidrissi.
Pour mener son étude européenne, l'ONG Algorithm Watch a payé pour mettre en avant des offres d'emploi sur Facebook. Puis, les chercheurs ont regardé quel type d'utilisateur avait été automatiquement ciblé par le réseau social. En France, une publication pour un poste de chauffeur poids lourd a ainsi été proposée à 2427 hommes et seulement 327 femmes. À l'inverse, une annonce pour un emploi en puériculture a été montrée à 10 fois plus de femmes que d'hommes. L'algorithme de Facebook semble avoir intégré dans son fonctionnement des données du passé, même si elles sont biaisées, pour prédire le futur. Facebook choisit donc les utilisateurs qui sont, selon lui, les plus à même de cliquer sur la publicité. Une recherche d'efficacité qui se fait au détriment de l'équité entre candidats. Et en France comme en Europe, une distinction basée sur le sexe peut s'apparenter à de la discrimination. Nous avons sollicité Facebook, mais aucun porte-parole n'était disponible pour répondre à nos questions.
7h07 sur France Culture, la suite du journal d'Anne-Laure Chouin. Plus de 250 000 décès dus au coronavirus ont été recensés en Europe à l'issue de ce week-end, dont plus des deux tiers au Royaume-Uni, en Italie, en Espagne, en France et en Russie.
Oui, cette dernière semaine a connu le plus lourd bilan depuis la mi-mai au niveau européen. Après la France et l'instauration de son couvre-feu, la Suisse et l'Italie ont pris de nouvelles mesures ce week-end pour contrer la deuxième vague. Nous y reviendrons dans notre journal de 7h30. En Israël, en revanche, après des semaines de confinement strict, le gouvernement a entamé la première étape d'une levée des restrictions qui devrait se poursuivre jusqu'en février prochain. Et pendant ce temps, la Chine, d'où est partie l'épidémie, est en train d'en sortir et de se remettre sur pied économiquement. C'est en tout cas ce que semblent prouver les indicateurs parus ce matin, celui notamment du PIB avec un rebond de 4,9% sur un an. Un chiffre soumis à caution, comme tous les indicateurs provenant de Chine, est bien éloigné des rythmes de croissance des années précédentes, mais toujours est-il que le pays semble avoir renoué avec la croissance. Preuve concrète de ce rebond, la consommation, elle repart à plein. Le reportage à Pékin de la correspondante de France Culture, Dominique André.
Quelques milliers de clients sont agglutinés dans les rues de Sanlitun, l'un des temples de la consommation de luxe à Pékin. Sans masque et déambulant parmi les stands de bijoux et de sacs à main, Mademoiselle Li, 30 ans, assouvit son besoin d'acheter des produits en grande quantité.
Aujourd'hui, j'ai dépensé 5000 euros. Il y a beaucoup de monde dans le centre commercial. Les produits que je préfère sont souvent épuisés, comme les chaussures et les sacs. Je ne compte pas tout ce que j'achète. Quand il y a de nouveaux produits, j'en profite pour en acheter beaucoup, comme avant.
Les ventes d'automobiles ont également augmenté de près de 13% en septembre sur un an. Mais cette reprise de la deuxième économie mondiale reste encore pénalisée par le ralentissement planétaire. Monsieur Liu organise des événements commerciaux à Pékin. Il confirme la reprise, mais reste prudent.
Nous avons licencié presque 40% des employés. Nous commençons à recruter des nouveaux. Mais comme nous avons subi une pression financière énorme pendant les 6 premiers mois, je ne veux pas me développer trop rapidement.
Après la guerre commerciale avec les États-Unis et le ralentissement mondial lié au Covid, les dirigeants chinois insistent de plus en plus sur la volonté de la Chine de compter d'abord sur elle-même. L'ère post-Covid sera peut-être déterminante pour la deuxième économie mondiale.
Un reportage de Dominique André. La partie nord de l'île de Chypre, celle qui est occupée par la Turquie, a élu hier son nouveau président. Déjouant les pronostics, c'est le candidat nationaliste pro-turc et surtout pro-Erdogan qui l'a emporté face au président sortant, qui lui était plutôt partisan d'une réunification de l'île. Ersin Tatar, nationaliste, l'a donc emporté avec 51,69% des voix. Une victoire qui va sans doute changer la donne dans la région. Sur fond de bataille acharnée pour le contrôle des hydrocarbures en Méditerranée orientale. Les précisions depuis Athènes d'Angélique Kourounis.
Le nationaliste Ersin Tatar et la Turquie, qui l'a ouvertement soutenu, sont les grands vainqueurs de ce scrutin face à Mustafa Akinci, président sortant, favori des sondages, mais battu avec plus de 4 points de différence. Les deux hommes représentaient les deux avenirs possibles de l'île de Chypre. Mustafa Akinci est un modéré en froid avec Erdogan. Il rêvait pour l'île de Chypre, divisée depuis 46 ans, d'une fédération bisonnaire loin de l'influence turque. Son rival, Ersin Tatar, très proche de Tayyip Erdogan, veut au contraire une solution à deux États séparés au sud, l'actuel État chypriote grec, le seul reconnu internationalement, au nord, la partie occupée par l'armée turque qui resterait dans le giron de la Turquie. Pour Ankara, garder son influence sur Chypre est plus capital que jamais car cela lui permet de revendiquer encore plus d'espace en Méditerranée orientale au nom des droits des chypriotes turcs dont elle est garante. D'où son implication directe dans ce scrutin jamais vu jusqu'à présent. Ainsi, l'ouverture de la ville morte de Varosha, fermée depuis 46 ans, a été annoncée par Ersin Tatar aux côtés du président turc à Ankara. L'inauguration de l'oléoduc sous-marin qui relie Chypre Nord à la Turquie s'est faite en grande pompe quelques jours après par les deux hommes. Enfin, selon les médias chypriotes turcs, 10 000 personnes ont bénéficié d'une enveloppe de 230 € pour voter contre Mustafa Akinci qui, de son côté, a déclaré avoir reçu des menaces afin qu'il ne se présente pas à ces élections. Autant dire qu'à moins de miracle, la page des négociations intercommunautaires en vue de la réunification de l'île est définitivement tournée.
Un mot du temps de ce lundi plutôt ensoleillé, de la grisaille ce matin sur le nord-est qui se lèvera au cours de la matinée. Grisaille également autour du golfe du Lion jusqu'à la région toulousaine et au Languedoc, partout ailleurs du soleil. Les températures ce matin comptaient de 0 à 10 degrés, de 13 à 25 cet après-midi.